chemin de la sagesse, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour Michel Théron.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Nous continuons bien sûr sur les chemins de la sagesse, nous en sommes au regard des autres et plus particulièrement sur la question de l'honneur que vous nous avez dont vous nous avez donné l'analyse, notamment dans des pièces comme celle de Corneille où finalement on se rend peut-être pas toujours compte de ces différentes strates de lecture.
Absolument, absolument. Vous voyez, Guylaine, je pense, pour bien clarifier les choses, que l'honneur ne tient pas à ce qu'on nous fait, mais à ce que l'on fait soi-même. Si on me marche sur les pieds, si on me regarde mal, si on me soufflette, si on me donne une gifle, etc., à l'évidence, la faute en incombe à celui qui commet ces incivilités, et non pas à moi-même qui n'y suis pour rien. Je ne suis déshonoré en aucune façon. La sagesse est de nier cela. Un jour, Socrate, à quelqu'un qui venait de le molester, de le bousculer, Socrate a dit « frappe mais écoute ». Donc Socrate ne se sentait pas déshonoré parce qu'il avait été ainsi bousculé. La responsabilité du dommage revient seulement à celui qui s'emporte, qui s'aveugle. Je pense à ce que dit Figaro, le valet du comte Almaviva, chez Beaumarchais, « vous commandez à tout ici, sauf à vous-même ». Donc ce comte rudoie Figaro, mais il est aveuglé. À l'inverse, je serai honorable moi-même si je fais quelque chose d'honorable. Par exemple, une femme victime d'un viol, elle n'est pas déshonorée. C'est son agresseur qui l'est par ce qu'il a fait. Elle est victime d'un crime, tout simplement. Mais l'aveuglement social est tel qu'on stigmatise la victime elle-même.
Mais il y a aussi dans ce cas-là un mécanisme psychologique.
Voilà.
Non.
Je ne sais pas. Il y a une idéologie qui est inculquée dans certaines cultures. Vous avez, dans l'émission précédente, la semaine dernière, vous avez bien parlé des codes et des repères culturels. L'aveuglement social, là, est tel qu'on va stigmatiser la victime. Et cette idéologie perverse peut être tellement intégrée dans l'âme de la victime qu'elle peut hésiter même à aller porter plainte au bureau de police, vous voyez. Et pourtant, cette souillure est celle du criminel, et pas la sienne. Et cette idéologie est aussi souvent intériorisée et trouvée naturelle par les mères elles-mêmes dans l'éducation qu'elles transmettent à leurs filles. C'est terrifiant.
Oui, ça absolument.
Ça fait une série de projections apeurées, puisque nous avons parlé des projections, et finalement, on marche sur la tête, quoi. Vraiment, on marche sur la tête. L'honneur féminin, vous voyez, Guylaine, à mon avis, il a été inventé par les hommes, qui considéraient la femme comme un territoire propre, une possession à laquelle nul autre ne pouvait toucher, et qui voyaient cette atteinte comme une tâche, en réalité faite à eux-mêmes, à leur propre réputation.
Et les diverses manifestations féministes n'ont toujours pas réussi à renverser ce courant-là.
C'est dommage. Il y a encore des cultures où ça fonctionne tout à fait comme ça. Et alors, en effet, on considère comme ridicule et on montre comme du doigt quelqu'un dont la femme n'aura pas été à lui tout seul, si vous voulez. Je pense à une phrase comme celle que j'ai lue chez Marcel Pagnol, « L'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois ». Cette phrase, elle ne peut être que mise dans la bouche d'un mâle conformiste qui vit sous le regard des autres. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Je ne pense pas qu'il faille l'attribuer à Pagnol lui-même, mais peut-être à un de ses personnages. Donc, la sagesse, c'est de s'éloigner délibérément de l'omnipotence du regard des autres. Si nous acceptons que le regard des autres a prise sur nous, alors nous admettrons par exemple dans un autre domaine l'idée qu'il puisse y avoir des lynchages médiatiques sur Internet. Parfois, selon le principe terrifiant à mon avis, qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, on va colporter des ragots, des fausses nouvelles, on parle des fake news actuellement sur Internet, et on va ternir la réputation numérique, déjà, on appelle ça l'e-reputation, réputation électronique, hein, la réputation numérique. Et certains acceptent l'idée de ce tribunal du web, hein, et quand ils en sont victimes, ils peuvent aller, puisqu'ils sont tellement mortifiés par le harcèlement, jusqu'à se suicider. Cela s'est vu.
Notamment chez les adolescents.
Et notamment chez les adolescents.
Dont nous parlions la semaine dernière.
Voilà. Donc là, il y a toujours, dont nous disions qu'ils étaient très sensibles au regard des autres.
Oui,
très, très sensibles au regard des autres. Alors, on voit que c'est du lynchage, sur Internet, mais que le lynchage, quelque chose de très archaïque, c'est très ancien, ça, le lynchage, peut perdurer dans une société high-tech, comme on dit, une société actuelle, hein. Prenez Robinson. Oui.
Un lynchage verbal, finalement.
Un lynchage verbal, tout à fait. Je sais plus qui a dit, c'est un proverbe, tenez, un proverbe qui me vient à l'esprit. Coup de langue, coup de lance. Coup de langue, coup de lance. Donc ça peut faire très mal.
Sachant que sur Internet, c'est démultiplié à l'infini.
Tout à fait, vous avez raison. Grâce au réseau, les choses sont répercutées, partagées, etc. Et donc, il n'y a pas que des likes sur Internet, il y a des dislikes. c'est pas des pouces levés, mais des pouces baissés.
Exactement.
Des pouces baissés. Alors, comme dans les arènes, dans le monde romain antique, celui pour lequel on baisse le pouce, eh bien, il est mis à mort. Voyez. Bon, donc. Voilà. Alors, prenez le cas de Robinson dans son île. Robinson, il n'a pas besoin de se préoccuper du qu'en dira-t-on, puisqu'il est tout seul. Bon, exception en fait de vendredi qu'il va trouver après, Il n'a pas à se préoccuper du de quoi est-ce qu'on aurait l'air, qui terrorise nos contemporains.
Mais vous n'êtes pas en train de nous dire, Michel, qu'il faut vivre en ermite?
Écoutez, non, mais je pense quand même qu'il faut parfois se protéger, cacher sa vie, on nous dit par exemple pourquoi faut-il protéger les données personnelles, précisément pour qu'elles restent personnelles, voilà, c'est ça, donc ne pas se donner un spectacle aux autres, Il y a un mot de Sacha Guitry qui me semble peut-être manquer de charité, mais qui me semble caractériser une grande sagesse. Sacha Guitry disait « Si les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. » Vous voyez,
c'est pas juste. Tout le monde est capable de dire des méchancetés ou de répandre des rumeurs fausses.
Ah ben, tout à fait, tout à fait. La calomnie, vous voyez, Basile, par exemple, chez Beaumarchais, d'abord rumeur légère, et puis ça enfle, ça grossit, etc. Alors, voilà pour l'honneur ou la réputation. Maintenant, soyons bien précis, je distingue bien l'honneur dont les autres sont juges, qui est une soumission vis-à-vis des autres, et la dignité d'une personne qui est son propre juge, qui ne dépend que de son propre tribunal. Alors à ce moment-là, on peut continuer à parler d'honneur, mais l'instance qui va conférer l'honneur, qui va donner le brevet d'honorabilité, n'est autre que soi-même. Je crois que l'essentiel dans la vie, c'est de ne pas se trahir soi-même, ne pas se dégrader à ses propres yeux. Si chaque soir, par exemple, en se regardant dans la glace, on peut se dire « Aujourd'hui, tu ne t'es pas trahi », à ce moment-là, on se délivre un brevet d'honorabilité. Mais l'honneur dépend de ce que l'on a fait, comme j'ai dit en commençant, et non pas de ce qu'on nous a fait. Et derrière ce que l'on fait, on voit ce que l'on est. Alors autre chose, puisque nous sommes en train de déconstruire, de démystifier, de faire acte d'iconoclasme, une notion à quoi beaucoup de gens sont sensibles et qu'ils valorisent, c'est la notion de gloire. Eh bien, à mon avis, c'est à tort qu'on valorise cette gloire. Parce que la gloire ne concerne pas ce qu'est vraiment un être lui-même dans sa profondeur, mais la représentation que les autres se font de lui et se feront de lui, pense-t-on, dans le futur. Corrélée à l'ambition, la recherche de la gloire fait pourtant l'objet de bien des vies. Mais ce n'est pas des vies de sages, si vous voulez. Il y a une grande vanité dans tout cela. D'abord, chercher le prestige implique beaucoup de reniement. Qu'est-ce que c'est que monter? Qu'est-ce que c'est que grimper dans la hiérarchie sociale? Monter, c'est grimper, c'est ramper à la verticale.
Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être en haut de l'affiche?
En haut de l'affiche. Ramper verticalement. Il faut avoir l'échine souple, comme un éclair au chocolat, si vous voulez, pour grimper comme ça. C'est ramper. Alors, on dit des gens, ils sont arrivés. Bon, Moi, à mon avis, l'essentiel, c'est pas d'arriver, c'est l'état dans lequel on arrive. Hein. Dans quel état? Ils sont arrivés, mais dans quel état? L'important n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi-même. Ce que beaucoup oublient, hein, dans leur parcours de vie. Alors, certains disent, je veux devenir quelqu'un. Mais il faut dire, mais qui? Qui voulez-vous devenir, hein? Est-ce que c'est une vie que de dépendre toujours de l'appréciation d'autrui? C'est être en hésitation, en attente, hein, dans la peur aussi que la réussite, une fois atteinte, ne dure pas. Donc c'est bien le cas de le dire, la phrase de Sartre dans Huis clos, l'enfer c'est les autres, hein, s'applique ici. Hein. C'est dépendre, c'est une dépendance. Et une vie ainsi exposée au regard de tous nous dépossède de nous-mêmes. Alors, vous voyez, Guylaine, vous posez la question, est-ce que je mets ça en pratique dans ma propre vie? J'essaie de mettre en pratique ce que les anciens appelaient, disaient en grec, latébion, c'est-à-dire cache ta vie, une vie cachée, si vous voulez, latébion. Hein. Cela préserve le vrai moi, mais cela ne condamne pas à l'isolement. Hein. Mmh. Non, je pense pas que l'isolement n'est pas une bonne chose, mais on peut très bien préserver sa vie, et puis un proverbe dit... Vitam recunde, cogitationem effunde. C'est-à-dire, cache ta vie et répands ta pensée. On peut répandre sa pensée en faisant des livres, ou bien comme tous les deux là, nous dialoguons. Hein, donc, nous essayons de répandre quelques idées, de semer quelques graines qui grandiront peut-être si elles sont arrosées par la réflexion, si vous voulez. Voilà. Hein. Donc, voilà, cache ta vie, répands ta pensée. Il y a une phrase de Madame de Staël, femme très intelligente, qui dit bien que la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Hein. C'est le deuil éclatant du bonheur. Et la littérature est pleine d'exemples qui montrent l'opposition absolue entre le bonheur et l'ambition. Par exemple, dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel, à la fin de sa... il est en prison, il attend la mort, hein, eh bien, il se dit que les seules années heureuses de sa vie ont été celles qu'il a passées avec Madame de Rênal, sa maîtresse. Hein. Seule, elle lui a procuré le bonheur. Et dans l'Odyssée, aussi. À un moment, Ulysse descend dans les enfers et il rencontre l'ombre d'Achille. Achille a eu une vie brève mais glorieuse, hein. C'est une vie chargée de gloire. Et Achille lui dit qu'il vaut mieux être un porcher vivant que de régner parmi les ombres, vous voyez, hein. Bon, et alors dans cette parole, Achille prend congé de la gloire. En grec, on appelle ça kleos, la gloire. Et l'Ecclésiaste dans la Bible dit aussi la même chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Hein. Il faudrait retenir ces leçons. C'est un grand livre de sagesse, l'Ecclésiaste. Hein. Je crois que l'ambition, comment dire, est quelque chose de très vain. On y croit quand on est jeune, hein. Et à la fin de sa vie, on en voit le néant. Hein. Brassens a dit, les trompettes de la renommée sont vraiment mal embouchées. Hein. Donc, sont bien mal embouchées. Et rien n'est éternel de toute façon. Hein. Victor Hugo disait, si grand que soit un homme au compte de l'orgueil, nul n'a plus de 6 pieds de haut dans le cercueil. Vous voyez, hein. Donc... Vous voyez aussi ce que dit Valéry dans Le cimetière marin, hein, où sont des morts les phrases familières, l'art personnel, les âmes singulières, la larve file où se formaient des pleurs. Hein. Autrement dit, la mémoire disparaît. Alors les phrases familières, on se dit, il disait toujours cela, celui qui nous a quittés, mais en fait tout cela disparaît. Hein. Là, avec le temps, tout s'évanouit, comme dit Léo Ferré. La mémoire disparaît, les phrases familières. La croyance consolatrice dans l'immortalité procurée par l'art, l'art personnel disparaît aussi. Et alors, la larve au fil où se formaient les pleurs, c'est terrifiant, ça. Hein. Dans les orbites vides des crânes, prospèrent des vers, vous voyez, hein. Ouais. Voilà. Hein.
Il faudrait, à vous entendre, si je comprends bien, il faudrait que la gloire soit une conséquence d'un épanouissement personnel, et non pas l'atteindre pour l'atteindre.
Oui, tout à fait. On pourrait dire cela. Mais encore, cette gloire, elle est éphémère. Alors, je regrette d'être peut-être un peu amer, mais j'ai
trouvé... Ça vient en plus, peut-être.
Oui, voilà, ça peut venir en plus. Mais ce qui disparaît, c'est l'art personnel, comme dit Valérie, personnel. Mmh. Par exemple, il nous reste l'Iliade et l'Odyssée, mais nous ne savons pas qui les a écrites. Mmh. Est-ce un certain Homère? Est-ce qu'il a écrit les deux ou simplement une seule des épopées? Est-ce qu'il a vraiment existé? On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, ce qui, l'art peut-être subsiste, mais pas personnel. Hein, personnel. Bon, d'un édifice, les pyramides, on ne connaît pas le nom de l'architecte, vous voyez. Dans ce qui disparaît, c'est la gloire personnelle. Alors, reste des attestations, peut-être.
Hein. Et on l'espère, une vie heureuse pour ces...
Oui, peut-être, une vie heureuse pour des attestations. On cherche toujours à laisser de soi une trace. Même les escargots laissent derrière eux une trace brillante. Hein. Voilà, les escargots. Donc, nous cherchons toujours, mais en fait, écoutez, j'ai trouvé une sagesse très amère, il me semble profonde, en feuilletant l'agenda ou l'almanach du marin breton. Plonge ton doigt dans la mer et regarde le trou. Hein. Bon, alors effectivement, on s'aperçoit que toutes nos, nos illusions peuvent s'écrouler.
Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fiefs salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive, je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je, pour défrayer la chronique des scandales, battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement, comme un enfant de cœur porte un saint sacrement? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Une femme du monde, et qui souvent me laisse faire mes quatre voluptés dans ses quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie des parasites du plus bas étage qui soit. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en criant sur les toits et sur l'air des lampions? Madame la marquise m'a foutu des morpions. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente avec le père Duval, la calotte chantante, lui le catéchumène et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris au genou de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Avec qui, ventre bleu, faut-il donc que je couche pour faire parler un peu la déesse aux cent bouches? Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare pour exciter le peuple et les folliculaires? Qui est-ce qui veut me prêter sa croupe populaire? Qui est-ce qui veut me laisser faire in naturalibus un petit peu d'alpinisme sur son monde venu? Vénus, tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Sonnerait-elle plus fort ces divines trompettes si, comme tout un chacun, j'étais un peu tapette, si je me déhanchais comme une demoiselle et prenais tout à coup des allures de gazelle? Mais je ne sache pas, ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles, que ça confère à leur gloire une once de plus-value. Le crime pédérastique aujourd'hui ne paie plus, tempête de la renommée, faites bien mal embouchée. Après ce tour d'horizon, des mille et une recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes, j'aime mieux m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors dardard, s'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché.
Michel, on continue. Nous en étions à la gloire personnelle, aux traces que l'on laisse, que les hommes et les femmes avides finalement de reconnaissance sociale laissent derrière eux. Je ne reciterai pas les exemples que nous avez donnés.
Les escargots.
Mais voilà, il y a parfois un décalage hein, entre l'épanouissement,
le prestige de la noblesse. Les noms à particules, alors pourquoi pas Lapin de Garenne par exemple, ou Chat de Gouttière, hein, voilà la noblesse.
Là, vous exagérez peut-être un petit peu.
Écoutez, je ne sais pas, mais bon, ça me semble une foire aux vanités très grande. Alors, vous avez parlé de reconnaissance, Guylaine, c'est très intéressant. Je pense que il faut bien distinguer le chimérique désir de gloire hein, du désir de reconnaissance. Alors, oui. Le désir de reconnaissance, lui, il est humain. Il est humain et totalement compréhensible. Hein. Par exemple, dans le domaine du travail, il est vital que le désir de reconnaissance soit satisfait sous peine de dépression. On peut faire un burn-out quand on se rend compte, justement, que ce que l'on fait ne rencontre aucun écho, aucune reconnaissance de la part de son supérieur. Et souvent, c'est moins le fait de gagner plus financièrement que la satisfaction de voir ce que l'on fait reconnu et apprécié qui va nous motiver dans le travail, vous voyez. Hein. Donc, il faut savoir aujourd'hui encore, ça se perd hein, bien souvent, dire merci. Et commencer par l'apprendre aux enfants, faute de quoi les enfants deviendront des égocentrés, tyranniques et ingrats. Hein. Et dans ce cas particulier, pour reprendre le thème de notre chapitre, c'est l'un différence des autres qui est pire que leur regard. Hein. Donc là, je crois aussi que autrefois, on l'apprenait aux enfants. Merci. Maintenant, il faudrait que...
C'est un mot oublié.
Ah ouais, c'est un mot tout à fait oublié.
Et la reconnaissance, c'est vrai, il me semble, rejoint l'humilité aussi. Reconnaître dans l'autre ses qualités qui peuvent être différentes des nôtres ou peut-être même, je ne sais pas si on peut dire supérieures, en tout cas ailleurs. Ça n'a plus rien à voir avec la gloire dont on parlait tout à l'heure et ce prestige.
Prestiges qui sont totalement factices.
Oui, hein. C'est ça. Tandis que la reconnaissance, c'est l'humilité de la personne qui reconnaît que l'autre a une valeur.
Ah, absolument. Devant de grandes qualités, l'unique salut est l'amour. Il faut savoir tirer son chapeau. Voilà la reconnaissance positive. Alors finalement, pour résumer tout ce que nous venons de dire, je dirais qu'il y a trois façons de considérer la personnalité d'un homme. Ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il représente. Et alors, ce qu'il a contribue pour beaucoup à ce qu'il représente. Beaucoup croient que leur possession matérielle concourt à les valoriser aux yeux des autres, hein, et leur être se réduit à leur avoir, et ils s'imaginent toujours par projection. Nous sommes toujours dans les projections. Ils s'imaginent que leur avoir va créer leur image. Alors une belle maison, une belle voiture, une belle femme, etc. C'est un jeu de frime, un jeu de look, hein, qui est très répandu, qui sous-tend toute la publicité, et la majeure partie de l'économie repose là-dessus. Hein. Ainsi, un objet n'est plus acheté seulement pour son usage, mais parfois et essentiellement aussi pour sa valeur de représentation, ce que ça représente, hein, ce que ça représente. Alors, j'aurais
une voiture qui roule, c'est pas la même chose selon les marques.
Voilà. Mais je sais pas si mes chaussures portent une virgule pour prendre une marque connue ou bien oui. trois bandes oui. Pour une autre marque. Alors oui. là, je vais frimer. Je vais frimer aux yeux des autres. En fait, je suis victime du mirage de la représentation de ce fameux regard des autres. La consommation aujourd'hui, elle est aux antipodes de la sagesse. C'est une sorte de serpent qui se mord la queue, Ouroboros. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on consomme ? On consomme la consommation elle-même. Hein. On consomme des signes et non pas des réalités. Hein. Si je mets trois bandes sur une paire de chaussures, sa cote, son prix va être décuplé, par exemple. Hein. Alors qu'une chaussure sans signes serait identique, hein, mais finalement...
Elle sert juste à marcher, voilà, à se protéger le pied,
exactement,
mais c'est tout.
Exactement. Donc, la consommation est une activité totalement idéaliste hein, et abstraite. C'est Baudrillard qui l'a montré dans Le Système des Objets, puisqu'il parle de consommation de la consommation. Hein. Voilà, on ne consomme pas des choses, mais des images, des logos, des marques, et le système qui produit tout cela. Et cela s'intègre, et ça c'est grave, Guylaine, jusque dans l'âme des enfants. Hein. C'est à qui aura la meilleure marque de vêtements, la meilleure marque de chaussures, le dernier gadget à la mode, le dernier smartphone à la mode, etc. On veut être dans le vent. Alors qui est-ce qui est dans le vent ? La feuille morte. Hein, la feuille morte est dans le vent. Hein, voilà. Les feuilles mortes vont se ramasser à la pelle maintenant.
Et voilà une autre chanson qu'on aurait pu mettre.
On aurait pu, oui. Donc nous allons rentrer dans l'automne, effectivement. Bon. Ouais. Voilà. Alors derrière tout cela, il n'y a rien de substantiel. Hein. C'est pas parce qu'on portera des vêtements non conformistes. Tenez par exemple la mode des jeans déchirés aujourd'hui. Hein, voilà. Hein. Bon, c'est pas parce qu'on portera des vêtements non conformistes qu'on est non conformiste. Et c'est au contraire là le pire des conformismes, puisque c'est le pire asservissement au regard des autres. On fait comme les autres, comme les copains, comme les copines, etc.
Alors, tout en étant opposé à la génération d'avant.
Oui, on est opposé, mais il n'y a rien de si grégaire et de si moutonnier que cela.
Oui.
Et c'est pourquoi, alors là je vais peut-être paraître très conservateur aux auditeurs, mais figurez-vous, Guylaine, que je suis pour revenir à l'école au port de la blouse, hein, voyez. Alors, je sais bien qu'autrefois, la blouse avait une justification pratique, c'était de protéger des taches d'encre. Hein. Bon, on pouvait se tacher, maintenant, c'est plus le cas, on n'a plus d'encrier, etc. Ou alors, si on ne veut pas remettre la blouse, remettons l'uniforme, hein, comme cela se pratique dans certains pays.
Alors, pourquoi vous voudriez revenir à cette
pratique ? Eh bien, parce que l'avantage de l'uniforme, c'est de créer un certain anonymat du porteur de l'uniforme et d'égaliser les conditions sociales, donc d'éviter l'asservissement au regard d'autrui. Hein, parce que aujourd'hui, justement, dès l'enfance, hein, on se dispute pour le blouson à telle marque, etc. Et on présume donc derrière le prix que cela vaut, c'est terrifiant. Il faudrait que tous les élèves soient habillés de la même façon. Hein, pourquoi pas hein.
Alors, ça déplacerait le problème.
Pourquoi ?
Ce qui se passe pas dans l'école,
se passerait à l'extérieur.
Oui, non ?
C'est possible. Ouais. C'est possible. Mais au moins l'école serait sanctuarisée. Au moins, il y aurait une espèce de.
Je reconnais bien l'agnostic ici. Hein.
Voilà. Oui, tout à fait. Il y aurait une espèce de lieu clos. Hein. Ou alors les marques ne seraient nulles et non avenues. Maintenant, on met des marques partout. Alors, c'est une attitude générale qui est à la fois risible et obscène, qui est faite de soumission aux valeurs de représentation. Alors, j'ai dit, l'homme est soit ce qu'il a ou ce qu'il représente. Mais le plus important, c'est ce qu'il est. Ce qu'il est. Hein. Donc, il faudrait ne valoriser dans un être que ce qu'il est. Et ça se voit dans ce qu'il fait et dans ce qu'il veut. Dis-moi ce que tu désires, je te dirai qui tu es. Hein. Et l'être, alors, une fois que les masques ont été écartés, il peut se voir, se jauger, se juger lui-même. Mais il faut du courage pour cela, tandis que les valeurs d'avoir et de représentation, qui sont très souvent liées et qui éloignent l'homme de lui-même, sont plus faciles à choisir et à incarner. On préfère vivre sous le regard des autres, hein, plutôt que sous son propre regard. Et pourtant, là serait la sagesse, loin d'un monde factice, sans doute peut-être le vrai honneur de l'homme. Alors peut-être que ce que je défends ici est complètement idéaliste ou irréaliste, mais au moins il faut résister, hein. Donc aujourd'hui, on est dans on fait complètement fausse route. Les êtres en profondeur ne sont pas perçus.
Hein. C'est purement nous éloignons de la sagesse. Alors. Nous nous éloignons de la sagesse. Absolument. Si nous acceptons ces dictates de la consommation.
Absolument. Et nous sommes toujours, pris par des mirages, fruit toujours de notre propension à projeter. Alors que finalement, comme le dit Job, je crois que c'est un livre de Job, hein, Guylaine, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je reviendrai là-bas, hein, donc on est nu, on meurt nu, hein, les logos, les marques disparaissent, si vous voulez.
Hein, il faut beaucoup de maturité.
Regardez les épitaphes, ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une épitaphe, Guylaine? Quelques vers sur beaucoup d'autres. Vous voyez, voilà, quelques vers sur beaucoup d'autres.
Mais vous nous amenez aussi à comprendre que la sagesse ne s'acquiert pas comme ça dès la prime jeunesse. Ne faut-il pas nécessairement de la maturité ?
Je pense que oui, il faut effectivement avoir vécu pour voir la vanité de l'ambition, parce que effectivement dans la jeunesse on veut faire de grandes choses, et imprimer sa marque aux yeux des autres, hein. Dans la deuxième moitié de la vie c'est autre chose, hein. C'est une régression, un retour si vous voulez à l'essentiel en soi, qui est l'enfant intérieur. Alors c'est le titre d'un chapitre ultérieur de mon livre, hein,
cette régression. Pas le prochain.
La prochaine fois, on parlera de solitude et autarcie, puisque tout cela est lié. Hein. Alors, bien entendu, nos émissions sont intempestives au sens de Nietzsche, c'est-à-dire elles vont contre la tendance du temps, intempestif, contre le souffle qui pousse les gens. Hein. Mais bon, on a besoin de ces considérations intempestives.
Oui. Merci à vous, Michel. On se retrouve alors.
La semaine prochaine. Au revoir à tous.
Au revoir.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.